Un événement, un artiste, une personnalité, Benjamin accueille pour vous un invité VIP.
Comme promis, nous avons la joie d'accueillir deux invités. Il s'agit de Michael Langlois, maître de conférence à la faculté de théologie de Strasbourg. Bonjour.
Bonjour.
Et puis notre ami Joël. Ça fait un moment quand même qu'on t'a pas entendu
sur
Arc-en-Ciel, puisque depuis la rentrée, les émissions Kiki et les Drôles d'Oiseaux n'ont pas encore fait leur réapparition, mais ça ne saurait tarder, rassurez-vous. Bref, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est plutôt le cinéma et au-delà du cinéma, c'est un thème bien particulier que nous allons aborder, c'est celui de l'Exode. C'est le thème du nouveau film de Ridley Scott qui s'appelle Exode, tout simplement, et qui bien raconte cette histoire qui est bien connue, qui a été souvent exploitée au cinéma. La première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Langlois, c'est: qu'est-ce que vous avez pensé de ce film?
Alors, j'ai eu un avis assez mitigé, je veux pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas vu le film. J'ai trouvé qu'il était très intéressant, évidemment, par rapport au texte biblique. Moi, je suis bibliste, donc forcément, les films qui parlent de la Bible, ça m'intéresse. Maintenant, je suis aussi assez fan de cinéma, y compris des films de Ridley Scott. Et j'avoue, je sais pas s'il faut le dire, mais j'étais un petit peu déçu quand même du film. Il y a des très très belles scènes, il y a des effets spéciaux très impressionnants. Et puis, j'ai trouvé parfois certaines inégalités au niveau du scénario, au niveau de la dynamique, des essoufflements. Le film était peut-être un petit peu long à certains endroits, etc. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé Gladiator et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas son meilleur film. Mais il vaut quand même la peine de... Il faut le voir quand même. De toute façon, il y a quand même des choses très intéressantes.
Alors, ce thème de l'Exode, on l'a dit tout à l'heure, il a été exploité plusieurs fois au cinéma, à la télé, et puis on se souvient tous forcément du film de Cécile B 2000, qui est le grand film jusqu'à présent qui racontait cette histoire de l'Exode, un film qui a aussi une histoire tout à fait particulière, qui a été refait plusieurs fois pour être modernisé par Cécile B 2000 lui-même. Là, on a porte certainement une patte nettement plus moderne avec les techniques modernes du cinéma. Est-ce que ça change pour autant le contenu de l'histoire? A priori, non. Qu'est-ce qu'on sait vraiment, au-delà de ce qu'on peut voir au cinéma, qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce thème de l'Exode et de cet affrontement entre Pharaon et Moïse?
Oui, c'est vrai. Alors, le film de Cécile B 2000, moi, je suis aussi fan. J'ai regardé ça, je sais pas combien de fois, depuis que je suis gamin.
Je l'ai vu qu'une fois.
Tu l'as vu qu'une seule fois?
Mais j'ai regardé, 8 fois Le Prince d'Égypte.
Ah, ouais, d'accord, c'est ça. Ouais. Non, mais quand même, 1956, Charlton Heston. Enfin, c'est quand même un classique. 3h40, le film. Enfin, c'est un monument du cinéma. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les images de synthèse. Donc, ça veut dire que si on veut avoir des grands palais, il faut tout faire, en fait. Et c'est ça qui est impressionnant. À la limite, c'est presque plus impressionnant de voir des vieux films comme ça. Vous avez des décors absolument
des fameux décors en carton pâte.
Oui, voilà, c'est ça. Alors que bon, évidemment, aujourd'hui, c'est tellement facile, tout est en image de synthèse. Alors donc, en un sens, c'est évidemment plus réaliste ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est peut-être moins impressionnant de ce point de vue-là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir qu'on a deux Moïse assez différents dans ces deux films. Charlton Heston, puissant, fort, le héros, vraiment le gars, on a tous envie de, je sais pas, bref, tous d'être lui, quoi. Et puis, alors que là, le Moïse de Ridley Scott, eh ben, il est, d'abord, il est incrédule, il est un peu moqueur, il y croit pas trop. À un moment donné, il tombe sur la tête, mais presque littéralement, hein, je veux pas trop en dire, hein, faut aller voir le film, mais puis d'un seul coup, ça y est, il a une sorte de révélation, et puis même, enfin, les gens dans son entourage en doutent un peu, enfin, tout au long du film, comme ça, on le sent, il essaie d'une certaine manière, ça marche pas, il sait pas comment s'y prendre, il est parfois un peu impuissant, enfin, c'est intéressant, et, alors, les gens vont dire, moi j'ai eu des échos en disant, bah non, mais quand même le Moïse de la Bible, c'est Charlton Heston, quoi, hein, c'est pas. Je trouve que dans les deux cas, ça se défend. Parce que quand on regarde le texte biblique, en fait, on a des versets assez contradictoires sur Moïse. On a des surprises avec parfois un Moïse, qui semble être parfait. On nous dit parfois qu'il y a eu personne. Il y a un verset à la fin du Deutéronome qui dit que personne ne s'est levé, aucun prophète ne s'est jamais levé comme Moïse, lui que Yahvé connaissait face à face. Et puis formidable, on dit il est extraordinaire. Puis dans d'autres passages, on nous dit il s'énerve et Dieu lui dit écoute, désolé, mais tu entreras pas en terre promise parce que, enfin, donc il est imparfait. Enfin. Donc on a ce personnage un peu ambigu, même dans la Bible. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, de pouvoir présenter différentes facettes au cinéma.
Est-ce que la différence qu'on peut voir entre ces deux films ne vient pas aussi de la façon dont on lisait la Bible à l'époque et de celle dont on la lit aujourd'hui? Est-ce que le Moïse de Ridley Scott n'est pas peut-être un peu plus humain, un peu plus réaliste que celui de Cecil B. 2000?
Oui, c'est ça qui est intéressant. Effectivement, aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est la façon dont on lit la Bible qui a changé, mais c'est peut-être de manière générale la façon dont on considère l'héroïsme. On est habitué à avoir, oui, le vrai héros, et puis on voit bien que maintenant on aime des héros. Moi, je sais pas, ça peut être Dr House à la télé, enfin je sais pas, ça peut être des personnages comme ça qui sont censés, oui, être les héros, mais finalement ils sont pas vraiment parfaits, ils ont des défauts, et à la limite on s'attache aussi à leurs défauts. Et c'est vrai que c'est assez naturel dans un contexte comme celui-là où on redéfinit un peu ce qu'on entend par la notion de héros, de revenir sur ce personnage de Moïse qui est présenté sous des traits héroïques et même divins dans la Bible. Moïse est présenté comme étant un dieu. Dieu dit tu es un dieu, je te fais dieu pour Pharaon, Aaron sera ton prophète. Donc Moïse est un dieu pratiquement dans certains textes bibliques, enfin pas pratiquement, même littéralement. Et donc du coup de se dire oui mais attention, il est aussi humain. Donc c'est vrai, vous avez raison, il est le Moïse de Ridley Scott est beaucoup plus humain et on peut beaucoup plus facilement s'identifier à lui qu'à une sorte de Charlton Heston parfait. Voilà.
Alors au-delà de ce qu'on dit de l'exode au cinéma, le thème de cette conférence ce soir, c'est mythe ou réalité. Qu'est-ce qu'on sait précisément de l'exode? On en connaît l'histoire qui nous en est racontée dans la Bible. Quelles sont les autres sources que l'on a? Est-ce qu'il y a des sources historiques par rapport à tous ces événements? Quels sont précisément ce que l'on sait de valeur sûre, j'ai envie de dire, et qui ne puisse pas être contesté par des personnes qui, par exemple, n'apportent pas une valeur historique ou scientifique à la Bible?
Oui, c'est une très très bonne question. Et c'est la question qui découle quand on s'intéresse au personnage de Moïse, quand on dit tiens, c'est marrant, comment il est présenté dans la Bible. On a envie de prendre un peu des distances par rapport au texte biblique en disant bon, finalement, voilà, certains passages nous le présentent comme ceci, d'autres comme cela. Qu'en est-il réellement? Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et d'ailleurs, c'est un peu ce que Ridley Scott cherche à faire dans ce film. Il cherche à retrouver peut-être l'effet historique derrière le récit de l'Exode dans la Bible. En disant, je vais essayer de retrouver le vrai Moïse humain, qui était peut-être pas aussi parfait que celui qu'on avait nous raconté. Je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé, les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors, donc c'est vrai que cette quête, cette question de l'historicité, c'est une question qui est légitime. On a envie de se poser la question et on a envie de retrouver un peu des traces. Alors, bon, est-ce que l'Exode est mentionné en dehors de la tradition biblique ou de la tradition littéraire judéo-chrétienne? Non, on n'a pas de source historique qui le mentionne. Et en même temps, je sais pas, moi je serais le pharaon, je sais pas si j'aurais envie de faire un beau relief, des bas-reliefs à Karnak ou à Luxor en disant voilà, je vais vous raconter comment je me suis fait latter par.
C'est ça.
Donc c'est en même temps, voilà, on s'attend pas dans ce genre de cas à trouver un récit détaillé, surtout du côté des vaincus. On a un exemple contemporain de réécriture de l'histoire, justement par les Égyptiens, c'est la bataille de Kadesh. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'elle est mentionnée dans le film. Alors évidemment, pour ceux qui ont fait de l'histoire de l'Antiquité, ils vont reconnaître, c'est une des premières scènes du film, c'est la bataille de Kadesh. Elle est très célèbre pour tous ceux qui étudient l'histoire du Proche-Orient ancien, mais pour les gens, pour les autres personnes, ils ne savent pas trop. Et c'est un peu dommage parce qu'en un sens, ça aurait mérité, disons, d'être expliqué. Enfin bref, j'en parlerai un petit peu ce soir, donc il faut venir. la bataille de Kadesh, c'est une bataille qui a opposé les Égyptiens, qui sont donc en Égypte à l'heure actuelle, c'est toujours le même pays, et les Hittites, qui sont en ce qui correspond à la Turquie aujourd'hui. Et donc, ces deux gros blocs géopolitiques, et ils se sont affrontés à Kadesh, une ville en Syrie. Donc voilà, à mi-chemin, et ils se battent en fait pour avoir le contrôle de ce qui correspond aujourd'hui à des pays comme la Syrie, le Liban, Israël, la Palestine, etc. Cette petite bande le long de la côte méditerranéenne qui était très prisée parce que c'est par là que tout transite, le commerce, enfin c'est une zone de contrôle importante. Et donc il y a une grosse bataille. Et alors, d'après ce qu'on peut voir, cette bataille, c'est quand même un peu les Égyptiens qui ont perdu. Enfin, parce que finalement, ils n'ont pas gardé le contrôle, ils voulaient avoir le contrôle de Kadesh, tout ça, ils n'ont pas eu, enfin bref. Mais si on en croit les bas-reliefs égyptiens, Luxor, à Karnak, Ramsès II, le pharaon, le grand pharaon Ramsès II, il explique que les dieux sont venus à son secours, etc. Enfin, il présente comme si c'était lui le vainqueur, en fait. Et ça montre que dans l'Antiquité, quand même, on écrit beaucoup ses victoires, et même quand on a des défaites, on essaie un peu de les réécrire pour en faire des victoires. Donc, c'est pas vraiment surprenant qu'on n'ait pas de récit de l'Exode en tant que tel, en dehors de la Bible, de sources contemporaines.
On va voir dans quelques minutes, après une première petite pause musicale, eh bien, au-delà de l'histoire de l'Exode, il y a tout un tas d'événements qui se sont déroulés à côté. On parle des fameuses plaies d'Égypte, on parle de l'ouverture de la mer Rouge, etc. Est-ce qu'il y a là aussi des sources? On a souvent, ces dernières années, entendu parler de certaines preuves scientifiques. Moi, je me souviens avoir entendu parler d'un fameux courant spécial, la conjoncture d'un courant marin et d'un courant de vent qui pourrait ouvrir la mer ou provoquer en tout cas un passage à gué dans la mer Rouge, etc. On essaiera, en compagnie de Michael Langlois, de déceler le vrai du faux. On écoute tout de suite Césarius, Une vie comme on l'aime, et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler ensemble de ce film Exodus.
J'étais un petit garçon méchant, remonté contre un tas de gens, contre un système économique et politique bien déstabilisant. J'en foutais pas une à l'école, j'étais le modèle des délinquants, influencé par des doctrines recommandant la nicotine. Un antidouleur, ça me fait pas peur, bien sûr pas ceux que donne le docteur. Les professeurs ne m'aimaient pas, d'ailleurs ils ne s'occupaient pas de moi. Ils avaient décidé en gros de me virer de ce grand bateau. Je partais grand à la dérive, j'étais perdu. Je m'appelle Yves. Tu la vois, je déprime et je m'enfuis. Une vie comme on ne l'aime. Dis-moi, comment la vois-tu? Je souris et je vis. C'est pas marrant mais bien casse-pied. Passer des journées devant la télé, j'étais accro, j'étais crado. Des chips par terre, le bide à pierre, une passion, la dérision. Se créer de belles illusions, partir en voyage, partir en mer, et quitter tout, quitter cette terre. Je me sentais seul et incompris, autant du monde que de mes amis. Ils me laissaient tourner en rond, comme un tout petit papillon. Un seul a répondu à mon cri, peut-être était-ce mon seul ami. Un gars unique et pas commun, qui m'a tendu la main. Une vie comme on ne l'aime. Dis-moi comment tu la vois. Je déprime et je m'enfuis. Une vie comme on ne l'aime. Dis-moi comment la vois-tu. Je souris et je vis. Ce gars a vécu pire que moi. Il est descendu jusqu'en bas. Sa seule maison, son intérieur, où résonne la voix de son cœur. Étendu la sein dans un jardin, il a pleuré cette prière. Que Dieu le cache de cette misère et veuille bien lui tendre la main. Sur une colline il est monté, portant sa mort à bout de bras. Nos égarements et nos faux pas, pour qu'on soit libre et délivré. Ça fait des siècles que je suis libre, et moi je m'enferme dans la galère. Aujourd'hui il attend mon pas, pour faire vivre l'extraordinaire. Une vie comme on ne l'aime. Dis-moi comment tu la vois. Je déprime et je m'enfuis. Une vie comme on ne l'aime. Dis-moi comment la vois-tu, je souris et je vis. Dis-moi comment la vois-tu, je souris et je vis. Dis-moi comment la vois-tu, je souris et je vis.
l'arc-en-ciel.
Plus de variété. Moins de blabla. Moins de blabla.
Nous sommes en compagnie de Michael Langlois, qui est maître de conférence à l'Université de théologie de Strasbourg et qui est là pour nous parler cinéma. Alors, ça peut paraître un petit peu saugrenu comme ça, mais c'est dans un cadre bien précis qui correspond tout à fait à ses compétences. C'est le cadre de la diffusion du film Exodus, nouveau film de Ridley Scott. L'Exode, c'est bien évidemment le thème de ce film. C'est un thème qui a été exploité de nombreuses fois au cinéma, à la télé, et puis de manière générale hein, dans l'art, hein, que ce soit, il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu bien évidemment des comédies musicales sur ce thème-là, et on se rend compte que finalement, on sait, on connaît ce qui nous en est dit, soit au travers de la Bible, ou soit au travers de ces films et de tout ce qu'on peut voir artistiquement dans ce domaine, mais qu'est-ce qui est vrai exactement? Quelles sont les sources que l'on peut recouper? On parlait tout à l'heure de cet affrontement entre Pharaon et Moïse. Que sait-on, par exemple, des fameuses sept plaies d'Égypte? Que sait-on historiquement, si j'ai envie de...
Oui, déjà, on sait qu'elle a 10.
C'est... J'ai 17.
C'est le chiffre parfait en même temps.
Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait.
C'est typique des réécritures bibliques. On passe de 7 à 10, il n'y a pas de problème. De 10 à 7, c'est comme... Bon, bref. Alors... qu'est-ce qu'on sait? On regarde le texte biblique, on voit il y en a 10, elles s'enchaînent, ça commence par le Nil qui se change en sang, etc., etc. Et ça s'enchaîne après, les fléaux s'enchaînent. Et évidemment, on s'est posé la question, on s'est dit, bon, mais est-ce que ça s'est vraiment produit? Et si ça s'est produit, est-ce qu'on peut trouver des explications rationnelles? Alors oui, on peut trouver des explications rationnelles. Et c'est précisément d'ailleurs ce que Ridley Scott veut mettre en avant dans ce film, puisque les fléaux s'enchaînent. Et il va même tenir compte de l'ordre dans lequel les fléaux s'enchaînent pour essayer de leur donner une explication rationnelle. On commence par le Nil qui commence par se changer en sang. Alors bon, faut commencer par donner explication déjà à ce premier fléau dans la Bible. C'est juste, on frappe les eaux du Nil et puis les eaux du Nil se changent en sang. Alors là, il imagine les crocodiles qui arrivent, qui commencent à attaquer des hommes, même je sais pas s'ils se mangent même entre eux. Enfin bref, un vrai bain de sang. Donc c'est une scène un peu voilà.
Voilà.
Alors du coup, forcément, les eaux du Nil sont polluées, donc forcément les poissons vont mourir. Donc tout ça, ça va entraîner une pollution. Et en fait, tous les grenouilles du coup vont sortir du Nil puisque les grenouilles elles aiment pas patauger dans le sang. Donc du coup, c'est là qu'il y a cette fameuse invasion de grenouilles qui arrive. Et puis tout s'enchaîne. Il y a des maladies, il y a des insectes. Les insectes ils vont forcément transmettre des maladies, donc le bétail va mourir, les gens vont avoir des pustules, et donc en fait tous les fléaux s'enchaînent les uns après les autres de façon tout à fait logique. Et d'ailleurs même un conseiller du pharaon lui explique ça. Le pharaon dit, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, voilà, tout ça c'est parfaitement normal, et il donne une explication parfaitement scientifique à ça. Et c'est ça donc que Ridley Scott veut montrer dans ce film. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le récit biblique, à chaque fois il y a un premier fléau, et puis Moïse va voir le pharaon, laisse-nous partir. Enfin, on dit non, il endurcit son cœur. Bon, alors on en met un deuxième, on retourne le voir. Non, alors un troisième, et ainsi de suite. Et il y a ce va-et-vient. Alors que là, dans le film, tout s'enchaîne. À la limite, même Moïse est vraiment spectateur, il est surpris et il est même à la limite pas d'accord. Il trouve ça un peu excessif, ces fameux fléaux. Moïse lui-même est pas très content de ce qui se passe. Mais donc, l'idée, c'est avec ce point de départ et tout qui s'enchaîne, finalement, on a une explication à peu près rationnelle à tout. Alors, le dixième fléau, il est un peu difficile à expliquer parce que c'est la mort des premiers-nés. Alors là, dans le film, on n'a pas d'explication pour dire, voilà, en fait, c'est tout à fait normal que d'un seul coup, tous les premiers-nés meurent. Ça, c'est sûr que c'est un petit peu difficile à expliquer.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette manière d'aborder l'histoire? Parce que on pourrait se dire, après tout, que si on fait un film qui traite de la Bible, d'une histoire aussi célèbre que l'Exode, ou que si soi-même on s'intéresse à la Bible, quel est l'intérêt d'essayer d'y trouver une explication rationnelle? Puisqu'on pourrait partir simplement du principe que, c'est Dieu qui a frappé, ça nous est dit comme ça dans la Bible, pourquoi est-ce que ça ne serait pas comme ça dans la réalité?
Oui, absolument. Alors, c'est vraiment intéressant parce que ça pose la question de l'interprétation qu'on fait des événements. Et c'est ce questionnement par rapport à l'Exode, c'est un questionnement qu'on peut avoir aujourd'hui encore. Est-ce que Dieu intervient dans l'histoire? Est-ce que je vois quelque chose se produire? Est-ce que j'y vois la main de Dieu ou pas? Et c'est souvent les deux interprétations sont possibles, c'est-à-dire il y a un fléau qui s'abat. Ah, il y a une guerre qui se déclenche. Ah, au contraire, j'étais malade, j'ai prié, je suis guéri. Bon, est-ce qu'il faut y voir la main divine ou est-ce que c'est simplement un concours de circonstances? Là, dans le cas présent, si effectivement les fléaux sont s'expliquent de façon parfaitement rationnelle à un moment donné, bon, je sais pas, les crocodiles se sont jetés sur des gens, ils étaient affamés, enfin pour X raisons, et puis ensuite tout s'enchaîne de façon assez mécanique. Alors effectivement, c'est pas très miraculeux, si ce n'est peut-être le timing. On va dire ah bah oui, mais comme par hasard, c'est à ce moment-là que ça s'est produit. Pareil pour la traversée de la mer Rouge. Ah bah oui, mais voilà, même si on arrive à trouver une explication rationnelle, c'est quand même pile poil à ce moment-là, les Hébreux peuvent passer, les Égyptiens, eux, peuvent pas passer. Donc, on peut quand même y voir un aspect miraculeux dans les concours de circonstances. Mais c'est vrai qu'assez souvent, bah oui, tout est affaire d'interprétation, tout est affaire de perception. Est-ce que je vais voir ou non l'intervention divine? Et je pense que c'est ça que le film, c'est ce sur quoi le film veut qu'on réfléchisse, c'est de dire, bah, quand certains voient la main de Dieu, d'autres voient absolument rien, aucune intervention divine. Et en fait, c'est l'affaire de chacun. C'est vraiment une affaire de perception. Et c'est pour ça que la foi, c'est quelque chose de personnel. La foi, c'est quelque chose c'est vraiment l'expérience qu'on peut faire soi-même dans sa vie autour de soi. Moi, je vais dire, écoutez, voilà, moi, j'ai prié et je vois là l'exaucement de mes prières. Et quelqu'un d'autre, peut-être, qui aura pas prié ou qui aura prié autrement, on va dire, bah, moi, pas du tout. Donc, c'est vraiment une réflexion intéressante d'un point de vue théologique, pour le coup.
Et donc, on parlait tout à l'heure hors antenne d'un autre film récemment qui a été au cinéma, c'est Noé. Il y a un retour un petit peu de ces thématiques. Alors, au-delà de forcément de l'aspect commercial et de tout l'argent que peuvent générer ces films, est-ce que on peut dire, notamment du côté du cinéma américain, qu'il y a un retour? On entend beaucoup ça dans, voilà, à la radio, à la télévision, dans les journaux ici en France, un retour du film biblique, de la grande fresque biblique. Est-ce que c'est quelque chose qui est perceptible vraiment, ou est-ce qu'il faut simplement y voir l'occasion pour les majors du cinéma américain de gagner beaucoup d'argent?
C'est vrai que c'est surprenant d'avoir coup sur coup comme ça deux gros blockbusters américains sur des personnages bibliques. On a Noé, on a Moïse, et puis bah je sais pas, j'espère qu'on va avoir David, enfin s'ils ont besoin de scénaristes ou de conseillers scientifiques, voilà, je suis disponible.
Je suis là.
Mais
je t'écoute,
voilà,
je suis sûr.
C'est ça, donc absolument. Non mais je trouve que c'est intéressant. Alors c'est difficile pour moi de savoir qu'est-ce qui se passe à Hollywood. Je pense qu'en général tout le monde est preneur de bonnes idées. Il suffit que quelqu'un ait une idée, puis tout le monde se dit tiens, il faut qu'on fasse pareil. Donc je pense qu'effectivement ce sont des sujets qui sont passionnants, qui intéressent. Même dans une société où peut-être justement les gens où la foi a changé, même un demi-siècle après Cécile B2000, l'intérêt pour la Bible est là. Et on se rend compte, peut-être, on a envie d'avoir un autre regard, peut-être, sur la Bible, mais on a quand même envie de se saisir de ces grands thèmes, de ces grandes histoires. La plupart d'entre nous, on a une éducation en Occident, dans le judéo-chrétienne, donc forcément, c'est des choses qui nous parlent et qui nous questionnent. Donc, je trouve que c'est bien qu'on puisse se saisir de ces thèmes, qu'ils puissent être exploités par le cinéma américain. En plus, c'est vrai que la Bible se prête à des grandes fresques, des grandes épopées. Il y a vraiment de quoi faire un cinéma hollywoodien, pour le coup. C'est vraiment, il y a matière.
Et inversement, avant de faire une nouvelle petite pause musicale, est-ce que vous sentez, en fac de théologie, par exemple, un engouement est-ce que ces films peuvent susciter un engouement pour des histoires qui, peut-être, on pourrait se dire, bon, ça va, Moïse, l'Exode, je crois qu'on a dit tout ce qu'on a à dire là-dessus, on connaît ça par cœur, ou au contraire, est-ce que ça redonne un intérêt, une envie de se replonger dans ces histoires et d'essayer d'y découvrir peut-être des choses qu'on n'a pas encore comprises, qu'on n'a pas encore des interprétations, qu'on n'a pas encore données à certaines thématiques bibliques?
Mais j'espère que ça suscite un intérêt, des vocations. Nous recrutons, venez étudier à la faculté de théologie, c'est le meilleur moyen de vous faire votre propre opinion. Non, je pense que moi, je vois qu'il y a un véritable intérêt pour la Bible, pour l'étude de la Bible, y compris pour l'étude même du texte biblique dans la langue d'origine. Moi, j'ai des tas de gens qui s'inscrivent au cours d'hébreu, enfin, je suis très très content. Et je pense, oui, même le fait que le cinéma vogue soient intéressés par ce type de partenariat et de faire intervenir un théologien ou un historien pour parler de ces histoires bibliques, je pense que ça montre qu'il y a un véritable intérêt, et je pense qu'on a une bonne promo cette année, en première année à la fac, on voit les effectifs en hausse. Je ne sais pas si c'est dû au cinéma américain, si c'est le cas, tant mieux, donc continuons.
On va faire une nouvelle petite pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes en compagnie de Michael Langlois, l'Exode, mythe ou réalité?
Okay. Tail down the morning rail yard, whistle blows, cattail down, our boxcar bound for no one knows. After every hidden seed out from its covering has been freed, and every book has been discarded from the bookshelf, cattail down in the forgetting of myself. Cattail down, replace the feathers in our vest. Cattail down, surround the ivy that's gone to poison in my chest. The parachute broke loose, cried the goose with misplaced but understandable concern for his little brother's mental health, his happy little brother in the forgetting of himself. Shed. Cattail down to dress my wounds. It left a bee sting in their stead.
Radio Arc-en-Ciel.
Radio Arc-en-Ciel.
On était en train de parler hors antenne de deux thématiques intéressantes. On va commencer par la première d'entre elles, c'est le fameux épisode du buisson ardent. C'est quelque chose d'absolument emblématique de cette histoire de Moïse, et c'est également un événement qui peut difficilement, je pense, s'expliquer de façon rationnelle. Comment est-ce que c'est traité dans le film ?
Oui, alors effectivement, l'épisode du buisson ardent, c'est au cœur du récit de l'Exode, c'est toute la vocation de Moïse. C'est là que d'un seul coup, Moïse se sent investi de cette mission, que Dieu se révèle à lui, il va lui révéler son nom, le tétragramme, le nom divin qui aujourd'hui n'est plus prononcé dans la tradition juive. Et donc il est mu par cette mission que Dieu lui donne et qui lui est révélée au travers du buisson ardent. Alors dans le film, il tombe sur la tête. C'est-à-dire vraiment, il a un accident, il va en montagne, il y a un gros orage, il glisse, il tombe, il y a un éboulement. et il se retrouve comme ça sous un ébouli, un caillou le frappe, il tombe dans les pommes et puis il se réveille et là d'un seul coup il voit ce buisson et puis il voit le messager divin. Alors c'est une sorte d'ange. Alors l'ange là c'est pas un humain avec des grandes ailes, c'est un enfant. Et Dieu et là d'un seul coup voilà, il a cette révélation et il revient chez lui, il va voir sa femme et il délire complètement, il est fiévreux, sa femme lui dit mais non, t'as halluciné, tu délires, et dit non, enfin bref, et puis là il part et c'est là il décide de retourner en Égypte pour aller sauver son peuple. Et donc c'est comme ça que c'est traité dans le film, et c'est intéressant parce que là encore on se dit bon alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé, est-ce que vraiment il a une révélation, est-ce que vraiment Dieu lui a apparu, ou bien est-ce qu'il a tout inventé, est-ce qu'il est vraiment devenu fou, voilà, donc la question reste ouverte.
Alors donc ça bien évidemment c'est basé sur le récit biblique. Qu'est-ce qu'on sait de Moïse dans d'autres religions? On sait que Moïse a une certaine importance, notamment pour les musulmans, il me semble. Qu'est-ce qu'on dit de cet homme dans les autres religions? Comment est-il vu? Et est-ce qu'il est vu un petit peu comme quelqu'un qui aurait eu une illumination à cause d'une pierre sur la tête ou à cause d'autre chose? Ou est-ce qu'il est vu comme un être divin, semi-divin? Comment le voit-on?
Non, alors oui, effectivement, alors dans les traditions, alors effectivement, Moïse est reconnu dans le christianisme et dans l'islam. Hein, ce sont des religions qui héritent des traditions bibliques. Dans le christianisme, on va avoir évidemment, et dans les deux cas, hein, que ce soit dans le christianisme et dans l'islam, on a un profond respect pour Moïse. Il est vraiment vu comme un grand prophète, quelqu'un qui a parlé de la part de Dieu, qui a donc voilà. Donc effectivement, il y a pas de perception négative. Au contraire, dans certains milieux, on va avoir tendance à prolonger ce processus de divinisation. Je disais tout à l'heure, dans le livre de l'Exode lui-même, Dieu dit à Moïse, tu es Elohim, tu es Dieu. Quoi. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et Moïse est présenté comme un être pratiquement divin. Et dans des traditions du judaïsme et du christianisme, on se dit, mais finalement, d'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment mort? Il est peut-être encore, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il est susceptible de revenir, d'apparaître dans le Nouveau Testament, il y a le passage de la montagne de la Transfiguration, Jésus est transfiguré et là il reçoit la visite de deux personnages et bien sûr on pense à Élie et à Moïse. Élie, dans le récit biblique, il monte au ciel sans connaître la mort. Moïse, il est censé connaître la mort, mais en même temps on nous dit oui, alors on sait pas où il est enterré. Est-ce que c'est Dieu qui l'a enterré? Est-ce que c'est les hommes qui l'ont enterré? Quand vous comparez les anciens manuscrits bibliques, on sent qu'il y a des variantes au niveau de ces versets-là donc on sent qu'il y avait vraiment une polémique par rapport à ça. Dans le livre de l'Apocalypse, de nouveau, il est question de deux hommes. Alors, des fois, on ne sait pas, est-ce que c'est Enoch, Élie, Moïse? En tout cas, il fait partie de ces personnages absolument fondamentaux. Il est central. Moïse, c'est le personnage central du judaïsme. C'est celui qui donne la loi. C'est celui qui vient structurer, donner une constitution, faire de ce peuple une entité politique, une véritable identité. C'est vraiment un personnage fondamental. Et il est profondément respecté donc dans le christianisme et dans l'islam. C'est pour ça que pour certains croyants qui ont un profond respect pour le personnage de Moïse, avoir un film comme celui-là qui va peut-être prendre ses distances par rapport à cette vision idéale du personnage, ça peut choquer. Alors je pense que même si on a cette foi-là, j'encourage quand même les gens à voir le film et à se laisser interpeller. Il s'agit pas, je crois pas que le film vise ou doit nécessairement mener à une sorte de destruction de la foi. Enfin, moi j'ai un profond respect pour la foi de tout un chacun. Je suis moi-même croyant et je crois que c'est toujours intéressant de se laisser interpeller par rapport au texte biblique, par rapport à la vision qu'on peut avoir. Là, dans le film, par exemple, Moïse est présenté au départ comme une sorte de général militaire, et c'est un homme fort. Et c'est vrai que c'est souvent un élément qu'on a tendance à oublier. Il est présenté au texte biblique comme quelqu'un d'assez timide. Quand Dieu l'appelle, justement, dans l'épisode du buisson ardent, il dit « Ah, mais je ne sais pas parler. Ok, alors c'est Aaron qui va parler à ta place. » Il est assez effacé. On nous dit que c'était l'homme le plus humble de toute la terre, le plus doux. Peut-être Moïse, c'était aussi quelqu'un qui avait aussi de la poigne, qui avait aussi, qui était habitué à fréquenter la cour royale. Enfin, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir comme ça d'autres facettes d'un personnage qui, de toute évidence, était plus complexe qu'on veut bien le présenter souvent.
Alors, l'autre thématique qui est un petit peu emblématique de cette histoire, C'est la période à laquelle s'est déroulée cette histoire. Vous nous disiez hors antenne qu'on s'est déjà posé la question il y a bien longtemps de savoir quand a eu lieu exactement ces événements. À l'époque déjà de Jésus-Christ, on se posait cette question, puisque vous nous disiez qu'il y a déjà des historiens qui cherchaient à savoir quand cela s'était réellement passé.
Et oui, c'est très intéressant. Il y a 2000 ans déjà, les historiens se disaient, bon, finalement, cette histoire, ça s'est passé quand à l'époque, au 1er siècle de notre ère, il y a un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph, qui entreprend de raconter toute l'histoire de son peuple, des juifs, des hébreux, et il remonte très très loin, il parle des patriarches et il parle de Moïse, il parle de l'époque. Et donc il entreprend de voir à quelle époque ça s'est passé, quels étaient ces pharaons, etc. Et alors il se base lui-même sur un historien égyptien qui s'appelle Manéthon et qui a écrit toute une histoire de l'Égypte plusieurs siècles avant Flavius Joseph, au 3e siècle avant notre ère. Donc au 3e siècle avant Jésus-Christ, un historien égyptien raconte l'histoire de l'Égypte. Et il parle de l'histoire des pharaons. Et d'ailleurs, c'est une œuvre très importante dont se sont servis les égyptologues pour vraiment faire les premières chronologies de l'Égypte ancienne. Et alors, Manéthon dit, voilà, il y a une dynastie égyptienne qu'on appelle les Hyksos. Et c'est encore le terme qu'on emploie aujourd'hui en égyptologie. On parle des Hyksos, des pharaons Hyksos, une dynastie. Et en fait, ce sont des gens venus d'Orient. Donc, quand on est en Égypte, l'Orient, c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui le Moyen-Orient. Peut-être des Arabes ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. En tout cas, qui n'étaient pas égyptiens et qui sont venus et qui ont pris le pouvoir. Et c'était des bergers. Et là, c'était des bergers et ils ont pris le pouvoir. Ils ont régné pendant 500 ans sur l'Égypte. Et puis ensuite, ils sont partis, ils ont été chassés, etc. Et ils se sont... Alors, Manéthon continue en disant, en fait, ils se sont rebellés, ils ont eu à leur tête un grand prêtre d'Héliopolis, un prêtre d'Héliopolis, et qui a changé son nom, qui a pris le nom de Moïse, et ils se sont installés en Judée, et ils ont fondé la ville de Jérusalem. Et donc ça, c'est ce que dit Manéthon, 3e siècle avant notre ère. Alors, Flavius Joseph trouve ça très intéressant. Il dit, bah oui, c'est Joseph, les Hyksos, ceux qui s'installent en Égypte et qui prennent le pouvoir. Bah oui, nous, voilà, c'est notre patriarche, c'est notre ancêtre. C'est l'histoire de Joseph. Quand il y a la famine en Égypte, Pharaon fait ce rêve et personne ne peut l'interpréter, mais Joseph l'interprète et lui annonce, il va y avoir 7 années d'abondance, suivie de 7 années de disette. Donc il faut faire des réserves. Donc Pharaon lui dit, bah écoute, voilà, puisque tu as toute cette interprétation, cette révélation, tu as qu'à toi t'en occuper. Et Pharaon laisse Joseph prendre le contrôle de toute l'Égypte. Alors il est intendant de l'Égypte, c'est quand même pas, il est pas non plus, il prend pas vraiment le pouvoir, il est pas roi, il est pas pharaon. Donc ça colle pas tout à fait avec les Hyksos, mais pour Flavius Joseph ça suffit quand même à dire si c'est bien lui. Mais alors Flavius Joseph aime pas trop ce que dit Manéthon sur l'histoire de ce prêtre à Héliopolis qui aurait changé son nom, qui aurait pris le nom de Moïse. Il dit non, ça c'est faux. Il dit pour lui Manéthon est judéophobe. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, il va prendre ce qui l'intéresse chez Manéthon.
Et rejeter le reste.
Et puis, ce qui correspond à sa vision à lui, il l'accepte. Et ce qui ne correspond pas, il le rejette. Et c'est intéressant parce que ça veut dire quelle est notre démarche historique. Ou bien, je suis vraiment historien et je vais prendre des sources. Et à ce moment-là, je vais les exploiter au mieux. Ou bien, je sais déjà ce que je veux croire et je vais uniquement chercher des preuves qui vont aller dans mon sens. Et là, ce n'est pas très honnête. Donc, si vraiment on a une démarche honnête, alors il faut quand même prendre un peu toutes les données. En tout cas, si on suit Manéthon, alors il a des problèmes de chronologie parce qu'il dit que les Hyksos règnent pendant plus de 500 ans. Alors ça marche pas parce que les Hyksos, ils étaient grosso modo au 16e siècle avant notre ère en Égypte. Si on fait et par ailleurs, il donne le nom du pharaon qui a chassé les Hébreux et ça correspondrait à Thoutmôsis III. Et donc on serait au 15e siècle avant notre ère. Donc ça veut dire que ça fait pas 500 ans, ça fait peut-être 200 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, ça donnerait Thoutmôsis III au 15e siècle avant notre ère, ce qui colle bien avec un verset de la Bible qui est même le seul verset qui donne une indication chronologique sur l'Exode. C'est dans le Livre des Rois, au moment de la construction du Temple par Salomon, on nous dit que c'était 480 ans après l'Exode. Alors voilà, on dit ça y est, pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. On nous dit 480 ans, on va dire 500 ans à la louche. Or, Salomon, c'est 10e siècle avant Jésus-Christ, donc 500 ans avant, ça fait 15e siècle avant Jésus-Christ. Thoutmôsis III, c'est en plein milieu du 15e siècle, ça marche bien. Donc c'est un très bon candidat. Peut-être que c'était sous Thoutmôsis III, que c'est vers la fin du règne de Thoutmôsis III, que s'est déroulé l'Exode. Mais alors, Donc ça colle avec Manéthon, ça colle avec ce verset du Livre des Rois qui parle de ces 480 ans avant le temple de Salomon. Mais il y a un autre problème dans le texte biblique, c'est qu'on nous dit que les esclaves hébreux bâtissent la ville de Ramsès. Ils bâtissent des villes, et notamment la ville de Ramsès. Alors on dit, mais quelle était cette ville? Et puis Ramsès, c'est quand? Alors il y a une ville qui s'appelle Pi-Ramsès, c'est peut-être ça, dans le delta du Nil, ça correspond, géographiquement ça colle bien. Le seul problème, c'est qu'elle était construite au XIIIe siècle avant notre ère. Alors du coup, on se dit, ah bon, alors XIIIe siècle, ça colle pas, il faudrait que ce soit XVe siècle, on est deux siècles plus tard. Et du coup, c'est pour ça qu'on se dit, mais peut-être que finalement, le pharaon, ce serait pas Thoutmose III au XVe siècle, mais plutôt le grand pharaon Ramsès II au XIIIe siècle. Et c'est cette deuxième hypothèse qui est suivie dans le film par Ridley Scott. Donc si vous allez voir le film, ou si vous l'avez vu, vous avez vu le pharaon de l'Exode, c'est Ramsès II, le grand pharaon Ramsès II. Donc voilà, il y a ces hypothèses qui sont évaluées par les égyptologues, par les historiens, par les biblistes. Aucune n'est parfaite, mais en tout cas, c'est intéressant de les évaluer.
Est-ce qu'aujourd'hui on continue à se poser ces questions, à faire des recherches? Est-ce qu'il y a des recherches, des études sur cette chronologie? Est-ce qu'on attache encore de l'importance à ces faits historiques, à pouvoir les dater?
Oui, absolument. On continue à essayer et d'ailleurs il y a une documentation. On continue à par rapport aux premières tentatives de datation. Bon, je parlais de Flavius Joseph il y a 2000 ans. Déjà, on se posait la question au 18e, 19e siècle. On se posait la question. On a fait des découvertes qui ont permis de documenter beaucoup mieux cette période-là. Il y a deux découvertes très importantes qui viennent alimenter cette réflexion. Des découvertes archéologiques. Il y a d'une part des tablettes qui ont été découvertes à Amarna, telle est l'Amarna en Égypte, et qui racontent, qui sont en fait des tablettes. On a la correspondance entre le pharaon de l'époque, le fameux Akhenaton, grand pharaon s'il en est, il y a toute la correspondance avec des rois étrangers, des correspondants, et notamment des rois vassaux qui correspondra plus tard au royaume d'Israël, donc ville de Jérusalem. Toutes ces villes-là sont documentées. On sait qui est en place à Jérusalem, quel est le gouverneur ou le roi de Jérusalem à cette époque-là. Et ça, c'est 14e siècle avant notre ère. Alors quand on a découvert ces tablettes, on s'est rendu compte qu'au 14e siècle avant notre ère, à Jérusalem, le roi qui était en place, c'est pas Josué, c'est pas Saül, c'est pas David, etc. On s'est dit, tiens, ça correspond pas à la tradition biblique. Israël n'est pas mentionné, les Hébreux sont pas mentionnés. Alors peut-être que si, il y a les Apirons, on s'est dit, tiens, c'est peut-être les Hébreux. Enfin, on discute, mais on s'est dit, est-ce que vraiment ça colle avec le récit biblique? Pas tout à fait. Alors c'est ça qui a dit, ah, mais oui, mais alors si au 14e siècle, il y avait pas encore les Israélites, peut-être que c'est plutôt du coup Ramsès II. Donc on est dit, tiens, faut peut-être privilégier cette hypothèse-là. Et puis il y a une deuxième découverte archéologique très importante, c'est la stèle de Merenptah. Merenptah, c'est le fils de Ramsès II, un des fils de Ramsès II qui a régné après lui et qui a érigé une stèle où il parle de une campagne militaire qu'il a faite en Libye et puis en Canaan. Et il parle des vaincus, des villes qui ont été prises, et il y a un peuple qui est mentionné et c'est Israël. Et c'est très intéressant parce que c'est la plus ancienne attestation d'Israël dans l'histoire, en dehors de la Bible. La première fois qu'on entend parler d'Israël en dehors de la Bible, c'est sur la stèle de Merenptah, qui date de la fin du XIIIe siècle, vers 1210, 1209, entre 1210 et 1205. Donc on est vraiment à la fin du XIIIe siècle. Et donc on s'est dit, tiens, pour la première fois on parle d'Israël, avant on n'en parle pas. Au XVe siècle, avant Jésus-Christ, on ne parle pas d'Israël, XIVe siècle on n'en parle pas, mais fin XIIIe siècle on parle. Donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui l'hypothèse prédominante, celle qui est mise en avant par la majorité des historiens aujourd'hui, c'est de dater l'Exode au XIIIe siècle, soit sous Ramsès II, soit juste après sous son fils Merenptah qui règne juste après Ramsès II. Donc, mais c'est encore des discussions. Il y a encore quelques années, il y a un livre. On continue à écrire des livres. Il y a un Britannique, un égyptologue britannique s'appelle Kenneth Kitchen. C'est facile à retenir son nom de famille, c'est Kitchen, c'est la cuisine en anglais.
Mais c'est première chose qu'on apprend en cours d'anglais.
Voilà, c'est ça. Donc Kitchen, retenez ce nom-là. C'est un des plus célèbres égyptologues spécialistes de la période de Ramsès, donc du pharaon Ramsès de la dynastie des Ramessides. C'est lui qui a établi une chronologie très détaillée des règnes de chacun, etc. Et lui-même, il s'est penché sur cette question-là. Il propose, donc lui, il est pour une datation de l'Exode au XIIIe siècle avant notre ère. Enfin voilà, donc il a écrit un bouquin en 2003, donc il y a 10 ans. Donc c'est-à-dire, ça alimente, hein, il y a des débats encore, on discute. Pour certains, il n'y a aucune trace historique, donc c'est complètement inventé. Pour d'autres, mais si, il y a vraiment des événements à la base du récit de l'Exode. Enfin, donc il y a encore des grands débats à ce sujet. Et j'espère qu'on va continuer à faire des découvertes archéologiques qui vont nous permettre de documenter plus finement encore l'histoire de cette période.
Alors, dernière petite question avant de reprendre le cours normal de la matinale. Qu'est-ce qui reste? Nous, voilà, en Occident, on est intéressé par ces histoires parce qu'il y a toute une tradition chrétienne qui fait qu'on s'intéresse et qu'on fait des films sur cette histoire. Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui en Égypte? Qu'est-ce qui reste de l'histoire des pharaons au-delà de l'archéologie et de l'intérêt que ça peut susciter au niveau touristique, etc. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui en Égypte de ces histoires, de cette tradition de l'Égypte, tradition de l'Égypte ancienne?
Alors, en fait, ça dépend à qui vous allez parler. Évidemment, dans le christianisme en Égypte, ce qu'on appelle les Coptes, hein, ils sont très attachés à ces origines égyptiennes, pas forcément uniquement d'ailleurs du Joseph de l'Ancien Testament, de la Genèse, mais aussi du Joseph du Nouveau Testament, puisque Jésus descend, après la naissance de Jésus, Joseph et Marie et Jésus descendent en Égypte pour fuir le massacre des enfants. Et il y a évidemment un parallèle entre le récit de la Genèse et de l'Exode et Jésus. Jésus va revivre finalement tout le parcours d'Israël, y compris quand on assassine les premiers-nés, il est préservé, et puis il va grandir, il va revenir, etc. Donc Jésus va revivre tout ça. Donc les chrétiens coptes disent, nous, nos origines, elles sont là. Jésus était en Égypte, il était là. Donc ils sont très attachés à ces traditions-là. Les musulmans sont attachés au personnage de Moïse. Ils reconnaissent la plupart des prophètes de la Bible hébraïque sont reconnus dans l'islam, et même Jésus est reconnu comme un prophète dans l'islam. Et puis il y a toute cette tradition, les pyramides, elles sont là, hein, les sphinx, donc l'aspect touristique est quand même pas négligeable dans un pays qui je pense, c'est une industrie très importante, le tourisme, pour les Égyptiens. Donc ils sont très fiers, évidemment, de ce passé pharaonique de l'Égypte. Mais d'un point de vue culturel, ça a marqué l'histoire, mais pas que l'histoire de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, mais on voit même à l'époque des rois d'Israël et de Juda, si vous allez même avant notre ère, même au tournant de notre ère, à l'époque de Jésus, enfin l'Égypte, il y a encore à l'époque hellénistique, à l'époque romaine, on va encore faire des motifs égyptisants, on va encore faire des sarcophages qui sont d'ailleurs, moi je les trouve assez moches, enfin c'est un avis complètement personnel, mais quand vous êtes à l'époque romaine ou hellénistique et que vous avez une sorte de sarcophage qui essaie de reprendre des codes iconographiques égyptiens, mais alors assez mal fait, c'est pas très agréable, mais il y a une culture, le poids de la culture et de la tradition égyptienne se voit à travers les siècles jusqu'à ce jour.
Merci beaucoup, Michael Langlois, d'avoir été avec nous pour aborder cette thématique, l'Exode, mythe ou réalité. On espère pouvoir vous accueillir prochainement pour parler de David. Il y a un film, hein, je ne sais pas si vous disiez ça en connaissance de cause, mais il y a effectivement des projets de films sur l'histoire de David,
ah,
etc.
Oui, c'est vrai.
Donc, on aura certainement l'occasion de pouvoir reparler de cette thématique. Tellement ancienne et qui continue de passionner aujourd'hui, qui continue d'intriguer l'espèce humaine, si je peux dire ça comme ça. Bring your tithe and bring your shame, bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's alright, 'cause I hear a voice and it calls me every day when others say I'll never be enough.
Un événement, un artiste, une personnalité, Benjamin accueille pour vous un invité VIP.